Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Il a peur de retrouver sa mère parmi eux. Et puis, quoi lui dire? Comment se comporter? Un mois plus tard, le père reçoit une lettre lui disant que sa femme va sortir de prison le lundi 13 à 10h30. Il dit à son fils, et il lui demande, « Je peux aller avec toi ?»« Oui, bien sûr. » Et il embrasse son fils. Et il dit, « Est heureux que son père soit heureux. » Lorsqu'il voit Mathieu, il lui dit, « Ma mère rentre lundi matin. » Mathieu lui demande, « Tu es heureux ?»« Oui, mais... » Inquiet. Comment se comporter avec elle? Ça fait si longtemps, ça me gêne. La mère de Mathieu le sait et va préparer un beau repas pour fêter ça. Le lundi matin, le père et le fils se lèvent tôt pour nettoyer la pièce. Puis, ils vont chercher la mère d'Alexis. Ils ont pris le métro et le car. Ils arrivent devant la prison, un quart d'heure à l'avance. La rue est vide. Il n'y a que la mère d'Alexis qui doit sortir. Ils attendent inquiets. En face de la prison, il y a un bistrot, Jean Prolo, pour ceux qui sortent de prison. La porte s'ouvre et ils voient apparaître Denise. En petite robe d'été, à fleurs blanches et bleues, une valise à la main. Elle est toute maigre et fragile. Elle a la tête qui tourne. La rue, le bruit de la ville, cette lumière, les jambes qui tremblent, inquiètes. De sortir, de voir du monde. Ils accourent à elle, l'embrassent. Elle se laisse embrasser, apeurée, fragile, comme un moineau. Elle Elle lui prend sa valise. Elle a la tête qui lui tourne. Son mari lui demande « Ça va ?» Elle ne répond pas. Il lui dit « On va prendre un taxi. Viens. On va aller téléphoner au café. » Il lui fait traverser la rue pour la faire entrer dans ce fameux café. Ça sent le vin bon marché. Il la fait asseoir à une table. Elle se met à face d'elle. Le père va vers le bistroquet qui est à son comptoir. Il connaît l'affaire, toujours la même. C'est un gros homme, chauve, à pull gris. Le père d'Alexis lui dit « J'aimerais c'est pouvoir téléphoner et trois remontants, s'il vous plaît. » Parce qu'elle lui dit « Téléphone et contre le mur, à côté des WC, à droite. Merci. » Il va faire venir un taxi. Puis, revient vers sa femme. Il est gêné lui aussi, ne sait pas quoi lui dire. Après toutes ces années d'absence, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais l'absence creuse, si l'on veut, un écart et éloigne les personnes qui sont très intimes. Ce qui fait qu'on n'en a rien à se dire. Tandis qu'une personne que l'on voit tous les jours a toujours quelque chose à lui dire, parce qu'elle fait partie de son intimité. Le bistroquet leur sert du quiche. Il a l'habitude de ce genre de situation. Il se retire en silence. Alexis se sent gêné d'être avec ses parents qui ne se parlent pas. Chacun s'imaginant la sortie de prison de Denise autrement, avec des épanchements de joie et tout. Mais là, rien. Il est vrai qu'elle n'aide pas aux épanchements. Avec sa tête maigre d'oiseau effarouché, son regard fuyant et son silence. Et s'il lui demande « Tu vas bien, maman ?» Elle lui fait, du bout des lèvres, « Oui ?» Il a les larmes aux yeux et se dit « On dirait qu'elle n'est pas heureuse de nous revoir. » C'est peut-être vrai, elle aurait préféré, c'est être seule. Oui, elle aurait préféré, c'est être seule. Vient d'entrer le chauffeur de taxi, un petit homme à cheveux châtains et moustaches, habillé d'un blouson de cuir noir et d'un pantalon beige. Il dit « C'est ici pour le taxi ?» Le biscuit fait signe où se trouve la famille. Elle. Et dit « Salut, je suis le taxi. C'est pour vous ?» Père d'Alice dit « Oui, nous arrivons. » Ils finissent de boire, se lèvent. Alice prend la valise de sa femme, de sa mère. En passant devant le bistroquet, le père donne sa carte pour payer. Le bistroquet lui donne le prix. Il met la carte sur l'écran et la lui rend. Ils sont sortis du café et vont vers le taxi. Le taxi les fait entrer. Couffoir leur demande, nous allons où? Le père donne l'adresse. La mère est assise entre le père et le fils. L'odeur de la voiture la dégoûte. La voiture roule. Elle regarde défiler la ville. Elle voit que c'est sale, triste. Il y a du bruit. Elle ne se souvenait plus que c'était aussi triste et délabré et bruyant. Les gens ressemblent à des zombies. Ça lui fait un peu peur. Dans sa cellule, elle était en sécurité en dehors du monde. La sécurité de tout ça. Son mari lui demande, comment trouves-tu Paris? Pas trop délabré? Elle lui dit timidement, ça fait peur. Alexis lui serre la main et lui dit, nous sommes là. Elle ne répond pas. Taxi s'est arrêté dans une rue lugubre. Il dit, nous sommes arrivés. Elle ne comprend pas, ne se souvient plus d'avoir habité dans un endroit pareil. Elle panique. Le père donne sa carte au payer, ils sortent de voiture. Elle a les jambes qui tremblent, des bourdonnements dans les oreilles. Elle est ici, elle a la valise à la main. Le bruit, la lumière pâle qui fatigue les yeux, les odeurs de la rue. Et puis ces gens. Qui passent, les regardent, ou une mine étrange de Maccabée. Son mari lui dit, c'est ici que l'on habite. Dans cet immeuble, elle regarde la façade, noire, délabrée, du linge aux fenêtres, les volets rouillés, du ciment qui s'en va, l'immeuble à quatre étages. Il pousse une porte en bois peint en marron foncé. Elle a le haut en ogive. Il a fait entrer. Elle est entrée dans une allée sombre, très sombre. L'odeur la prend à la gorge, odeur étrange d'humidité et de poubelle. Le hall de l'entrée est étroit, en longueur. Et au plafond, très haute, qui pend à un fil électrique, une ampoule qui donne une lumière jaune sale. Les murs sont gris sales. À certains endroits, il y a des traces d'humidité. Et de temps en temps, la peinture et le plâtre s'en va par plaques. Le sol, c'est de la pierre usée, inégale, irrégulière. Il y a des boîtes aux lettres, dépareillées, remplies de pubs qui dépassent, et même les boîtes aux lettres ouvertes. Sur les boîtes aux lettres, il y a des pubs. Il fait monter des escaliers de pierre, petits escaliers de pierre étroits et usés, à rampe de fer peint en vert. Son mari lui dit, on habite ici, dans le grenier. C'est la mère de Mathieu qui nous le prête. Tu te souviens, Mathieu ? Elle lui fait, oui. Et s'il lui dit, avant d'aller chez nous, allons aller chez la mère de Mathieu. Et se l'est guidée. Mais elle aimerait mieux si elle allait s'allonger. Alexis, la voix triste, montait avec des difficultés. Il lui demande, ça va ? Elle fait vous de la tête. C'est la fatigue qu'on lui parle et qu'elle doit répondre. Elle n'a plus l'habitude qu'on lui parle et qu'elle parle. Et puis, la solitude lui manque. Elle ne sent rien, ni pour sa famille, ni pour sa libération. Elle se dit seulement qu'à 7 heures, elle serait allongée dans son lit en attendant l'heure du manger, la tête vide, sans être obligée de répondre ou à écouter. Sa famille, son mari, pour le moment, ne représentent rien, ne sont rien pour elle. Les derniers temps, lorsqu'ils allaient la voir en prison, elle était même ennuyée que l'on vienne la voir, qu'elle soit obligée d'écouter, de répondre. Lorsqu'on est habitué à la solitude, on l'apprécie et c'est plus facile que d'avoir une compagnie et moins fatigant. Bien sûr, il y a des gens qui ne la supportent pas. Ce sont pour la plupart des gens qui s'aiment, qui veulent se mettre en avant et parler d'eux. Ils sont narcissiques. Ils veulent démontrer qu'ils savent des choses, etc. Ils arrivent à l'étage. Alexis sonne à la porte. S'ouvre. C'est la mère de Mathieu. Elle a le sourire. Elle a l'air d'être très joyeuse. Elle est heureuse de voir le retour de son ami. Entrez. Ils entrent. Lorsqu'elle voit Denis, elle est surprise. Cette femme si maigre, si triste, on dirait une morte. Elle se sent gênée. Elle sait comment faire pour l'accueillir. Elle essaie de sourire et de cacher son trouble. Bonjour Denise, heureuse de te revoir. Denise ne dit rien. Elle est effrayée devant cette femme qui ne lui dit rien. Belle, elle ne la reconnaît pas et ne cherche pas à la reconnaître. Non, elle veut être seule. La mère de Mathieu la prend par le bras et lui dit, viens, nous allons souper. Tu dois avoir faim. Elle ne dit rien. Non, elle n'a pas faim. Mais elle a grande envie d'être seule. Elle se sent au milieu d'étrangers. Même son fils est un étranger. Apparaît dans le couloir un beau jeune homme. Rougissant, il va vers elle. Intimidé, il lui dit, « Bonjour Julie, Denise, je suis heureux que vous soyez libérée. » Elle ne dit rien. Mathilde lui dit, « C'est mon fils. Tu ne le reconnais plus ? » ?»« Bien sûr, il a bien grandi. » »« Viens, allons au salon. » Et elle l'amène au salon. Alexis a pris la valise. Ils suivent le couloir. Alexis se sent triste. Se sent triste. Je croyais que ce retour de prison serait plus gai. Il se demande pourquoi. Dans le salon, Mathilde fait asseoir tout le monde. Denise à côté de son mari, Alexis et Mathieu en face l'un de l'autre, elle en bout de table, pour être plus libre pour servir. Elle dit, j'ai préparé un repas de fête, vous allez voir. Durant le repas, elle ne parle pas à personne. Tous crispés font semblant de rire et d'être heureux. Ils lui parlent de tout. Elle répond avec un sourire crispé. C'est très gênant. Des moments, il y a de longues minutes de silence. Elle ne fait rien pour arranger, adoucir l'ambiance. Elle est gênée de ces gens qui lui sourient, veulent lui parler. Parce que ces gens ne lui sont rien. Elle mange à peine. Mathilde est très gênée et se demande ce qu'elle peut faire pour détendre la biosphère. Mathieu a honte, a envie de retourner dans sa chambre. Alexis a honte du comportement de sa mère, il ne comprend pas. Il se dit, on fait tout pour qu'elle se sente bien, il n'y a rien. Son père, lui, est très triste, il était si heureux de retrouver sa femme. Et elle, rien. Ils ne les voient même pas. Une fois que le repas est fini, tout le monde se regarde en blanc des yeux et se demande ce qu'il faut faire. Normalement, on aurait pu parler gaiement, mais là, Mathilde se dit, Denise tout de même me fait à la gueule comme ça. Moi, qui les ai aidés, en leur prêtant mon grenier, et qu'ils invitent presque chaque jour à manger, et elle, rien, même pas un merci, même pas un sourire, rien. On dirait qu'elle n'est pas heureuse d'être retournée ici. Elle a qu'à retourner en prison. Le père d'Alexis sent une grande gêne. Il est ennuyé, il dit, je crois c'est qu'il est temps de vous laisser. Denise, tu vas avoir besoin de repos. Mathilde lui dit, oui, vous avez raison. Il se lève de table et sort du salon. Mathilde les raccompagne jusqu'à la sortie de l'appartement. Elle leur dit, bon bien, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à me le dire. Père Alexis lui dit gêné, merci. Et ils sortent de l'appartement. Ils conduisent Denise jusqu'au grenier. Entre. Elle entre. Lui dit, c'est en attendant. Elle ne sait que dire. Dans cette pièce, le plafond en sous-pente, des meubles de récupération, il y a même une caisse en bois qui sert de table de bosse. Le coin cuisine est un réchaud. Et il y a une bassine sur une toile cirée de cuisine. Il y a un divan. Il lui dit, c'est le lit d'Alexis. Le nôtre est derrière le rideau. Parce qu'il y a un rideau rouge pour le cacher de la vue. Il a été mis. Elle voit tout ça, ne sait que penser. Au milieu de ce décor étrange, avec ces deux personnes, ces inconnus. Le père d'Alexis lui dit, on va habiter là, c'est en attendant. Elle ne dit rien, reste sans bouger. Alexis est gêné, gêné. Ne sait quoi faire. Il a de la peine pour son père. Il n'éprouve rien pour cette femme qui ne dit rien et fait les étrangères. Et à force de faire l'étrangère, elle le devient. Alexis pose les valises près de la porte à terre. Le père demande, tu veux boire quelque chose? T'asseoir? T'allonger? Elle fait oui la tête, il dit, viens. Il amène au lit, soulève le rideau. Il y a un lit à deux places, en fer, avec dessus un dessus de lit beige. Il dit, viens t'allonger. Elle quitte ses chaussures. Et s'allonge. Il la laisse et ferme le rideau. Le père et le fils s'assoivent. Ils n'osent pas bouger. Elle est allongée dans la lumière rouge, une odeur de poussière sec. Où elle était, faisait plus frais, c'était plus sombre, plus facile pour dormir. Elle n'entend pas de bruit, mais elle les sent, pas bien loin, ça la gêne. Elle n'aimerait ne pas les revoir, rester seule, toujours seule, c'est ce qu'il y a de mieux. Les gens, le monde, ça la fatigue. Le temps passe, elle ne dort pas. Le père et le fils ne se parlent pas. Ils sont déçus et gênés tous les deux. Alexis aimerait sortir, respirer un peu. Il a l'impression d'être prisonnier, que c'est lui qui est prisonnier maintenant et à cause de sa mère. Elle, elle a l'impression d'être plus en prison avec eux, plus qu'en prison. Parce qu'ils s'occupent d'elle constamment, la connaissent, elle étouffe. Et puis, elle n'ose pas bouger, tandis que dans sa cellule, elle pouvait bouger. Là, ils sont dans sa cellule. Oui, c'est comme si ses geôliers étaient toujours près d'elle. Jour et nuit. Voilà à quoi elle pense. Le père dit, après 2 heures, « Faudra peut-être la réveiller. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et s'il lui dit, « Je ne sais pas. » Le père lui dit, « Tu veux aller voir si elle est réveillée et lui demander ce qu'elle veut ?» Elle entend ça et se demande si elle doit faire semblant de dormir. Elle est prise de panique. Et si lui dit « Tu crois ?» Le père lui dit « Oui ». Le fils se sent très gêné. C'est comme s'il allait retrouver une inconnue. Et pourquoi son père n'y va-t-il pas, lui ? Il se lève. Elle entend venir. Le rideau se soulève. C'est lui. Elle ne bouge pas. Il lui demande « Tu vas mieux ?» Elle lui dit faiblement « Oui. Tu as besoin de quelque chose ?» Elle ne dit rien. Il se dit qu'elle ne doit plus avoir l'habitude de demander quelque chose. Il lui dit « Tu veux du café ?» Elle fait long de la tête. Il lui demande « Tu veux rester allongé ?» Elle ne dit rien. Il lui dit « Si, si tu veux voir, tu peux aller voir papa si tu veux, si tu te lèves. » Il est là, il s'approche d'elle. Elle le voit et se dit qu'elle doit se lever. Elle se soulève péniblement. Elle a le vertige. Remet ses chaussures. Se lève. Et un peu le vertige. Il soulève le rideau. La laisse passer. Elle voit son mari, cet homme qui est plutôt son mari. Il se lève, va à elle. Il lui dit, viens t'asseoir. Et il la guide jusqu'au fauteuil. Il lui demande, tu veux boire quelque chose ? Elle fait non de la tête. Il s'assoit autour d'elle. Personne ne se parle. C'est très gênant. Elle se dit, c'est mal parti. Ça va être gai. La journée se passe comme ça. Le père essaie de parler, mais elle répond que par des oui ou des non, et encore à peine. Alexis ne dit rien. Puis, l'heure du dîner arrive. Ouf ! Alexis se lève et peut préparer la table. Le père prépare pour faire cuire des pâtes. Il dit à sa femme, c'est pas un repas de fête. Non, pas les moyens. Durant le repas, personne ne dit rien. Elle mange à peine. Le mari commence à s'énerver. Il se dit, elle va pas être comme ça tout le temps. Après le repas, c'est la veillée. Alexis est assis et lit un livre. Puis, il faut attendre l'heure du coucher. Alexis ne sait comment faire pour se coucher. Il doit attendre que les autres aillent se coucher pour y aller lui aussi, parce qu'il couche dans la pièce. Lorsqu'il n'y avait que son père, c'était plus simple. Maintenant, c'est comme si il y avait une inconnue qui était rentrée chez eux. Enfin, le père dit, « Il serait temps c'est d'aller se coucher. Ils se lèvent tous. Elle est si attente qu'ils quittent la pièce pour se déshabiller et se coucher. Ah, ils quittent la pièce. Descendent le rideau. Elle est si gênée, se déshabille. Couche sur le divan. Il est gêné et se dit qu'avant, c'était mieux. Il a honte. Il entend qu'il se déshabille. De bruit, fatigué, il s'endort. Puis un cri, son père qui dit : je ne te comprends pas, tu ne veux pas ? Ça fait des années que j'attends ça. Tu peux pas m'en empêcher. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Tu n'es pas contente, t'es de retour. Parle! Et puis merde! Arrête de chialer! Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour te faire plaisir? Il a soupiré. Tu es vraiment impossible. Tu aurais mieux fait, c'est de rester où tu étais. Si c'est pour nous faire la gueule. Le silence. Alexis est très gêné. Puis, là, laisse-moi faire. N'aie pas peur. J'y vais doucement. Là, ne tremble pas. Allez, détends-toi. Tu verras comme c'est bon. Allez, détends-toi. Laisse-moi te soulever ta chemise de nuit. Là, doucement. Ne te raidis pas. Laisse-moi le mettre. Allez, ah merde, tu me fais chier, je ne peux plus, je ne te comprends pas, ça fait des mois que toi aussi tu n'as pas fait et ça ne te manquait pas, c'est pas possible, tu as fait ça avec qui? Un geôlier? Dis, salope, et ne chiale pas. Non, pas la peine de te mettre en position. Je n'ai plus envie. Alexis se sent gêné. Et se demande s'il n'aurait pas préféré qu'il entende le plaisir que cette dispute. Les jours passent. Il ne parle pas. Elle ne sort pas, elle a peur de la rue. Mathilde ne va pas les voir. Pour ne pas les gêner, pour les retrouvailles et se dit que c'est une seconde lune de miel. En guise de lune de miel, c'est la Bérésina. Elle ne dessert ni la bouche, ni les jambes. Une femme qui ni ne parle, ni ne baise, c'est insupportable. Le père est aigri et ne sait que faire. Elle s'y sort le plus tôt possible et rentre le plus tard possible. Il est gêné de voir ses parents comme ça. Et en veut à sa mère d'être comme ça. Une fois dehors, il dit à Mathieu, cette poussière est insupportable à cause de ma mère. Mathieu lui dit, faut lui laisser le temps de s'adapter. Les jours passent et c'est toujours aussi tendu. Le père est mauvais à cause de sa femme qui a des difficultés et il a des difficultés à trouver des petits boulots. Il devient de plus en plus irritable. Elle dit, lorsqu'il est avec ses parents, n'ose pas parler ni bouger. La mère fait le ménage ou à manger en silence. Le père ne lui demande plus rien et la nuit, le fils n'entend plus rien. La mère ne parle toujours plus. Alexis est triste de voir sa mère être comme ça avec eux. Pendant le repas, qui se passe en silence, le père furieux jette sa serviette sur la table et dit « Et puis merde, je ne peux pas vivre comme ça !» Et il sort de la pièce en claquant la porte. Haïti voit que sa mère ne réagit pas, comme si elle ne se souciait pas de ce qui s'était passé. Haïti, pris d'une rage folle, se lève et lui dit « C'est ta faute tout ça. Tout ça, c'est ta faute. Pourquoi est-ce que tu nous fais la tête ? On dirait que tu n'es pas heureuse de nous revoir. Moi, je t'aime. Tu n'es plus ma mère. Tu n'es plus ma mère. » Et se trouve en courant vers la sortie. Elle se lève, le rattrape, le prend dans ses bras. Ils pleurent tous les deux. Les pleurs, les cris de son fils, la réveillent et la honte et se met à l'aimer. Je lui dis, maman, maman, pourquoi? Pourquoi? Elle l'embrasse. Il donne un baiser sur la tête. Oh maman, je savais comme je t'aime. Elle regarde ce grand garçon de 20 ans qui se comporte comme un petit garçon. Et qui l'appelle à cause de sa mère. Elle a les larmes aux yeux. Elle l'embrasse. Et lui demande, va chercher ton père. Il sourit et lui dit, oui. Il s'essuie le visage. Et il sort de la pièce. Du grenier. La fait descendre les escaliers et lui demande « Ça va ?» Elle lui fait « Oui !» avec le sourire et lui prend la main. La guide et l'aide. La colère de son fils, ses pleurs, m'ont ramené à sa famille. Elle se dit, je suis revenu chez moi. Une fois dehors, le jour lui fait mal aux yeux. Elle a un instant de panique. Il la voit, la maintient. Le bruit des gens qui passent et cette odeur de pourriture qui vient des poubelles qui débordent lui donne mal à la tête et la nausée. Il lui dit, ça ira ? Il dit, oui. Oui, ça va. Il lui dit, il doit être au café, là, en face. Il dit, j'attends sur le trottoir, va le chercher. Il lui dit, ça ira? Il lui fait, oui, allez, va. Et il la laisse, court, entre dans le café, le café Prolo 1950. Et il revient avec son père. Il court à elle. Se jette dans ses bras et elle met sa tête sur son épaule. Elle a les larmes aux yeux. Il la serre très fort. Il soulève le visage et l'embrasse. Un visage plein de larmes au milieu des passants et près d'Alexis, heureux. Il lui dit, tu es revenu? Elle lui dit, oui. Il la serre très fort et lui demande, tu veux rentrer? Elle lui dit, non, marchons un peu. Elle prend la main de son fils. Lui la prend très fortement à la taille. Et il marche dans la rue. Elle lui dit, je suis enfin de retour, libre. Et il marche en silence. Et la vie reprend, elle parle plus, à retrouver la vie de famille. Et puis, vous présenter dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.